Marie-France Proux, opticienne.
À Boulevard 102.1, dans Marceau le matin, c'est vendredi et on se fait une tête sur les gros dossiers de la semaine. Voici Jacinthe Varelle.
Jacinthe est là! 7h55. D'habitude, elle nous amène le soleil. Je peux vous dire que ce matin, c'est raté. Non, elle n'a pas amené le soleil. C'est nuageux. Mais c'est pas grave. T'as de l'air d'être ces rayons de soleil. Comment ça va, Jacinthe-Ève?
Ça va très bien.
Content de te voir. C'est la fin à l'Assemblée nationale. Tout le monde commence à déménager ses affaires de l'Assemblée nationale jusqu'à leur bureau de circonscription. C'est le cas, entre autres, de Geneviève Guilbeault qui nous a fait une capsule vidéo du tonnerre. Il y a Max qui essaie de la défendre, là, Geneviève Guilbeault. Mais quand tu la vois sortir et marcher en regardant la personne qui est en train de la filmer, il y a un rayon de soleil qui passe bord en bord de l'ouverture de la boîte et qui montre que dans le fond de la boîte, c'est totalement vide.
Ah ouais.
C'est épouvantable. Des gens qui travaillent sur leur image de cette façon-là puis qui paraissent aussi mal, je veux dire, ces gens-là, ça aide pas.
Mais
c'est peut-être une bonne personne, Geneviève Guilbeault. Personnellement, je la connais pas. Mais au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est un peu à l'image de la personne qui se regardait constamment là, son reflet dans le lac. Là.
Oh là 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 là!
Parce que ça va lui nuire tout le long de sa carrière.
Oui, bien, effectivement, j'invite tout le monde à rechercher la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que dès la première écoute, le premier visionnement, c'est ce qui nous frappe, c'est le rayon de soleil qui passe bord en bord de la boîte.
Quand vous finissez un déménagement, là, il reste un peu de stock, puis des fois, il reste juste, vous dites, bon, ben je vais mettre le peu de stock qui reste dans une boîte, puis si vous avez à filmer une vidéo, ben vous allez filmer à la fin, justement, quand vous avez fini, puis c'est cette boîte-là, la dernière, qui a peut-être juste un petit bouquin dedans.
Oui, tout le monde fait ça, hein, prendre une grosse boîte, pour mettre une feuille dedans, pour déménager de façon sécuritaire.
C'était ça que t'avais.
Elle fait quand même cette vidéo où on la voit en petits talons hauts sur le pavé autour de l'Assemblée nationale. En plus, là, le petit pavé rempli de craques. Donc, de toute façon, ça serait mal avisé de transporter une
boîte travaillé en politique pendant des années et des années. Quelle est l'importance de l'image en politique?
Elle est importante, l'image, et ça fonctionne, hein, parce que quand on va voir les commentaires sous ces publications, il y a beaucoup... Il y a beaucoup
Vas-y!
T'es pas gênée, d'habitude?
Vous m'avez entendu m'auto-censurer, hein?
Ouais! C'est pas toi, ça! Qu'est-ce qui se passe?
C'est ça!
Je vais faire attention à ce que je dis.
Il y a des messieurs qui la trouvent jolie.
Des madames qui la trouvent donc bien bonne, donc bien fine aussi.
Ça, c'est vrai. Sous ces publications, il y a énormément de fanbase de femmes. Puis là, tu sais, je vais peut-être avoir plein de préjugés exactement d'un certain âge.
Ce que tu veux nous dire, c'est qu'il y a beaucoup de légumes qui embarquent dans la fabrication de l'image de Geneviève Guilbeault.
Il y a beaucoup de gens que ça impressionne parce que c'est une mise en scène à chaque fois, vidéos. Hein, et elle montre toujours là, des vidéos où elle est en mouvement, s'en va quelque part, elle s'en va faire quelque chose. Elle est toujours aussi habillée très convenablement, très professionnellement. Et ça, ça suscite beaucoup d'engouement de gens qui embarquent là, dans cette...
Quoique là, elle a commencé à fin de semaine, là, depuis qu'elle est juste députée, à aller dans des organismes communautaires, puis là, elle publie ça. Et regardez... je viens de faire de la popote avec ce groupe-là. Puis là, il y a toujours ses enfants qui sont là aussi. Tu sais, elle a commencé à changer son image.
Je trouve ça concret, Jeff. Tu sais, quand elle va aider le monde, si c'est vrai qu'elle aide le monde, moi, je trouve ça concret, mais l'image de la boîte, qu'elle fait semblant qu'elle fait son déménagement elle-même alors que la boîte est vide, je trouve que ça la fait plus mal paraître que d'autres choses. Jean Charest, à l'époque, il était en tournée médiatique. Je pense qu'on était... on était en élection. Je l'ai rencontré deux ou trois fois, mais la première fois que je l'avais vu passer, c'était pas moi qui l'avais en entrevue, c'était Denis et Jérôme, à l'époque, dans mon ancienne vie radio. Et on avait demandé aux gens de la station comment était fait le stationnement et si le stationnement était assez large pour que l'autobus de Jean Charest puisse entrer dans le stationnement et se virer de bord. Mm-hmm. Et là, on avait dit à l'époque, parce que c'est encore comme ça, mais à l'époque, on avait dit non, l'autobus va devoir arriver très près de la porte et ensuite reculer. Et ça avait été refusé par l'équipe de Jean Charest parce qu'on a dit si jamais l'autobus de Jean Charest recule, ça va être filmé, puis on va se le faire dire, puis ça va être vu négativement par rapport à la population. population, ce qui fait en sorte qu'ils ont tout simplement décidé de se parquer sur la Grande Allée, de se stationner sur la Grande Allée. Et là, on a fait marcher Jean Charest peut-être juste un peu plus. Là. J'imagine que les gars, les bodyguards devaient être un peu plus stressés à ce moment-là.
Ouais.
Mais pour pas que l'autobus de Jean Charest recule, on avait dit, on va se stationner sur la Grande Allée plutôt que dans le stationnement normal parce qu'on ne voulait pas que l'image soit négative.
Ben
fait
oui.
que l'image est hyper importante
ben oui.
en politique.
L'image est hyper importante. Geneviève Guilbeault joue beaucoup là-dessus, joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle aime ça. C'est à elle de se demander est-ce qu'elle rejoint son public cible et où elle s'en va plus tard, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, parce que définitivement, quand on regarde les commentaires sous ses nombreuses publications, on voit qu'elle rejoint une certaine tranche d'âge, un certain type de citoyen. Si elle se valorise là-dedans à les rejoindre, à les impressionner, ces gens-là, grand bien lui fasse, elle a le droit, mais c'est toujours particulier quand on fait face à des vidéos d'une élue comme ça. Ça, je dis une ou un, hein, parce qu'on aurait... On vivait certains mêmes malaises ou certains mêmes sentiments à l'égard des vidéos que François Legault faisait, notamment quand il a lancé son propre podcast. On avait aussi à la fois une tranche de population qui trouvait ça bien admirable, bien, bien beau, bien fin, et d'autres tranches d'âge qui trouvaient ça complètement ridicule ou qui avaient un certain malaise à l'écoute de ça et qui se disaient « Mon Dieu, j'ai hâte que ces secondes-là passent ».
Nemaska Lithium, ça va pas nécessairement bien au niveau des finances. Et ce qu'on a appris sous la plume de Charles Lecavalier dans la presse, c'est que le gouvernement caquiste prévoyait en 2023 qu'il investirait davantage que 250 millions dans Nemaska Lithium, même s'il affirmait à ce moment-là que les efforts financiers des Québécois tiraient à leur fin. Et au bout du compte, c'est 1,2 milliard de dollars en aide publique qui a été versé dans ce projet-là de mines de lithium et d'usines de transformation. 2018, ça a commencé avec Philippe Couillard qui a investi 130 millions dans le projet. Et à ce moment-là, on prévoyait construire une usine à Shawinigan. 2019, un an plus tard, le projet connaît des retards et des ratés. Nemaska Lithium se place à l'abri des créanciers. 2019, là, on se place à l'abri des créanciers. 2020, on est racheté par Québec et il y a des investisseurs privés qui arrivent. 2023, Pierre Fitzgibbon dit « Je vous donne 250 millions de dollars en subvention pour relancer le projet » et on prévoit alors une construction d'usine pour transformer le lithium à Bécancourt et exploiter une mine à Wabouchi. Ce que le ministre de l'Économie ne dit pas à ce moment-là, c'est un peu comme je te disais au départ, c'est qu'il y avait d'autres versements d'argent qui étaient prévus, même si on savait que l'entreprise allait pas bien. Rio Tinto achète en 2024 Arcadium Lithium qui détient 50 % de Nemaska Lithium. Et Québec remet encore 250 millions de dollars dans le projet en sachant que l'usine n'allait pas bien. Les travaux se retrouvent sur pause aujourd'hui à Wabouchi et malgré tout, on a décidé d'investir encore un 150 millions de dollars. Qu'est-ce qui fait en sorte que Pierre Fitzgibbon, avec toutes les mauvaises décisions qu'il a prises avec notre argent, qu'est-ce qui fait en sorte que ce gars-là n'a pas les menottes au poing au palais de justice de Québec pour répondre à des accusations de négligence avec l'argent des contribuables? C'est épouvantable.
Ouais, c'est épouvantable.
Il va falloir en pogner un à un moment donné puis donner un exemple. Tu le mets en bobette là, sur le pont de Québec, tu y mets du goudron sur le corps, des plumes, puis là, tu le filmes, puis tu fais passer ça à Salut Bonjour le samedi, puis tiens, ma gang de sacrements, on va vous donner un exemple.
Ça fait peut-être du bien de le dire, Yannick, mais ils peuvent toujours se cacher, ces élus qui prennent des mauvaises décisions. Et derrière le fait qu'ils n'ont pas de boule de cristal, lorsqu'ils prennent ces décisions, ils ne peuvent pas savoir d'avance.
Et quand ça va déjà mal à Saint-Ève, puis curieusement, je sais que tu vas me dire que c'est un hasard, parce que tu es intelligente, tu vas dire « Yann, c'est un hasard », mais ces gars-là qui ont géré notre argent comme des brochets gèrent leur argent comme des maîtres.
Ouais.
C'est tous des multimillionnaires indépendants de fortune. Fait qu'ils prennent des décisions adéquates pour leur portefeuille, mais pour ce qui est de l'argent du public, on s'en crisse, c'est un puits sans fond, on va tondre les moutons, puis quand ils n'auront plus de laine, ben on trouvera un moyen, là, on fera la saignée, on les pendra en arrière, on tranche la jugulaire, puis on récupérera le sang, puis on dépensera tout ce qu'on reçoit en retour. C'est une catastrophe ce qu'ils font avec notre argent.
Ah oui, c'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle ceux que vous entendez parfois, on ne les entend pas beaucoup, mais ceux que vous entendez parfois dire qu'il faut arrêter de donner des subventions aux entreprises, il faut arrêter de choisir les gagnants des perdants, il faut arrêter de prendre le gouvernement comme un dieu des affaires, une organisation capable d'anticiper les marchés, capable d'analyser les marchés. Non, L'État n'a pas cette capacité parce que la première raison, c'est que ce n'est pas son propre argent, ce n'est pas l'argent individuel des gens qui font partie de l'État qui est en jeu. Et quand ce n'est pas ton argent, ben, tu prends plus de risques. Tu n'as pas la même conscience de faire tes devoirs, de vérifier des trucs.
C'est-tu le désir de laisser un legs qui t'amène à prendre ces mauvaises décisions-là. T'sais, on l'a vu, François Legault rêvait du legs, la filière batterie.
Ouais.
C'est-tu cette obsession-là, laisser un legs? Je pourrais faire une comparaison ici à Québec avec Bruno Marchand qui a l'obsession de laisser le tramway comme legs.
Ouais.
Surtout que c'est pas son projet, là.
Oui, mais il y a quand même l'obsession d'être le maire qui va l'avoir réalisé.
Ben oui, il va couper le ruban ou il va être invité lors de l'inauguration.
C'est ça, parce que c'est en 2033, on verra. Ouais. Mais c'est ça, c'est-tu cette obsession-là d'absolument vouloir, je veux laisser un legs, puis là, je me bats contre nature pour laisser ce legs-là?
C'est une bonne hypothèse, laisser un legs. L'autre chose, c'est probablement aussi cette envie de nous sortir du trou, parce qu'on le sait que sur le plan économique, il faut qu'on crée davantage de biens, qu'on exporte davantage de biens, et ils ont juste le mauvais moyen face à un problème auquel tout le monde s'entend.
Jacinthe-Ève, j'ai toujours été reconnu comme un expert en affaires, tout le monde sait ça. Je vais proposer quelque chose au gouvernement. L'argent qu'on a perdu dans Lyon Électrique, l'argent qu'on a perdu dans Nordvolt, l'argent qu'on perd dans Nemaska Lithium, là, on est rendu quoi, à 2,5-3 milliards de dollars. Si on avait donné ça aux poumons du Québec, les PME, en disant « voici, il y a de l'argent qui est disponible pour que vous puissiez croître en tant que PME », à quel point ça aurait été plus payant pour les contribuables? C'est pas vers là qu'on devrait aller aider les entrepreneurs, hommes, femmes, puis les autres qui savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes, à faire progresser leur entreprise?
Ben oui, absolument. Absolument, parce que là, en plus, tu cibles quelque chose d'important. Ceux qui bénéficient de ces subventions, c'est souvent des entreprises qui roulent déjà à des centaines de millions de dollars et plus d'activités, qui ont déjà été chercher des actionnaires, qui ont déjà été chercher du financement privé. Ils ont déjà franchi le cap de la croissance de première étape, la première croissance. Ils sont déjà rendus beaucoup plus loin dans le financement de leur entreprise, dans l'expansion. Pendant ce temps-là, on a des commerçants ici à Québec, un peu partout, dans toutes les villes du Québec, qui ont de la difficulté à arriver ou de la difficulté à prendre la première expansion que tu as besoin pour dire « OK, là, ça roule en crime, mon affaire, à place d'avoir mon petit commerce de coin de rue, finalement, j'ai une clientèle régionale parce que j'ai su augmenter ma production de biens ou augmenter mes activités, mes services pour aller chercher une plus grande clientèle puis peut-être éventuellement développer des marchés interrégionaux. Mais ça, effectivement, c'est l'autre... C'est plate parce que ces politiciens-là, ils vont avec l'instinct, avec aussi l'écoute probablement de lobby, parce que ces compagnies-là, comme elles sont rendues au niveau financier dont on vient de parler, ils ont les moyens de se payer des lobbyistes qui vont décrocher des rencontres avec des ministres, qui vont pouvoir aller les voir dans leur bureau ou aller dans les soupers, là, une épluchette de blé d'Inde pour 50 $, venez rencontrer votre député. Et puis, ils ont accès aux politiciens, ils sont déjà bien positionnés et ils peuvent leur vendre leur salade, vendre du rêve, vendre un projet qui ne fonctionne pas bien, vendre un projet boiteux, mais en disant, là, on a commis les erreurs, il n'y en aura plus d'autres, ou c'est cette gaffe-là qui nous est arrivée l'année passée où notre mise sous protection des créanciers s'est réglée, c'était dû à tel enjeu. Ils ont accès aux politiciens pour convaincre puis vendre leur salade. Ce que les PME dont tu viens de parler n'ont pas du tout accès.
Quand je parle des propriétaires de PME, petites ou grosses, c'est pas important. Ce qu'on nous dit, c'est quand on veut avoir accès à une subvention, c'est extrêmement complexe. C'est des choses précises. On doit répondre aux critères. C'est très compliqué. Ce qu'on apprend avec le rapport de la vérificatrice générale, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de suivi qui était fait. C'était des dossiers qui étaient mal montés, mais quand même, il y avait des montants qui étaient octroyés. Puis ça, c'est pas les fonctionnaires, là. C'est les ministres au cabinet. En haut, François Legault, Martin Koskinen, Pierre Fitzgibbon, j'imagine, qui étaient bien impliqués là-dedans. Christine Fréchette était impliquée là-dedans et qui ont dit « Oui, on accorde ces subventions-là. » Tu me parles de lobbyistes. Veux-tu que je te parle d'Olivier Primeau? Ouais. Olivier Primo, je l'aime bien. C'est quelqu'un de sympathique. J'ai eu la chance de faire quelques podcasts de Marceau le soir avec. Je l'ai eu aussi en entrevue dans Marceau le midi, dans le temps que je dormais. Olivier Primo semble très près du gouvernement de la coalition Avenir Québec actuellement. Et encore hier, il a tenté de sortir Christine Fréchette du fiasco financier en disant « Vous êtes d'accord avec moi? » Peu importe qui est responsable de ce fiasco catastrophique, on ne peut pas dire que c'est la faute de la première ministre. Christine Fréchette a fait un très bon travail à l'économie après avoir hérité du dossier du ministre précédent. Et là, moi, je me mêle, OK? Fait que je m'en vais sur le registre des lobbyistes.
Ouais.
Et là, je tape Olivier Primo. Donc, pour la période de 2026, quatrième mois, ça c'est janvier, février, mars, avril. Fait que ça commence à avril jusque 2026 du huitième mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc jusqu'au mois d'août. On est encore dedans?
Ben oui.
Ben Olivier Primo est inscrit au registre des lobbyistes pour représentations diverses auprès du gouvernement du Québec pour explorer un partenariat stratégique de valorisation des ressources en eau souterraines au Québec. Il est inscrit au registre des lobbyistes et avec ses réseaux sociaux, promouvoit Christine Fréchette.
Ouais.
Je me sens pas bien. J'ai hâte de jaser Olivier pour savoir à quel point il est proche du gouvernement qui est en place. Il veut-tu être député ou il veut pas être député? Il veut-tu être premier ministre ou il veut pas être ministre? Il veut-tu être ministre ou bien il veut faire progresser ses affaires? Est-ce qu'Olivier Primo, en 2020, dans les années 2020, c'est l'ancien Alexandre Taillefer des années 2010?
Oh, ouais, tu poses des très bonnes questions. Des très, très bonnes questions.
On est-tu en train de se faire avoir par Olivier Primo? Parce que moi, j'y faisais confiance. J'ai hâte d'y jaser.
Ouais, ouais. Ah ouais, j'ai hâte de voir comment il va te répondre à tout ça, mais bon, c'est on a déjà...
Parce que Olivier Primo, là, sur les réseaux sociaux, c'est une puissance. Là.
Ben oui,
c'est,
ben oui.
Tout le monde l'écoute.
Il y a une capacité de rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois.
Puis là, il est en train de sortir du trouble avec les réseaux sociaux, la première ministre en place.
Ouais.
Et lui, il négocie directement avec le cabinet du premier ministre pour faire valoir sa protection de l'eau dont il est propriétaire d'un certain portefeuille.
Oui. Exactement. Donc, on pourrait s'imaginer que si il fait une bonne job pour redorer l'image et déculpabiliser tout soupçon qu'on pourrait avoir à l'endroit de Christine Fréchette dans le dossier de la filière batterie, parce qu'elle a été ministre de l'économie, hein, elle a poursuivi l'œuvre de Pierre Fitzgibbon, rappelons-nous-le tous quand même, soyons honnêtes, elle a poursuivi l'œuvre de Pierre Fitzgibbon au ministère de l'économie. Elle pourrait être tentée de lui en devoir une, hein?
Ah, je sais pas. Ah oui? OK. Ça marche comme ça en politique. Juste à dire que je veux pas être perçu comme étant un lanceur d'alerte parce que ça pourrait mal finir pour
oui,
moi.
Oui, ben oui. Hein? Il pourrait avoir une enquête sur toi.
Appelez-moi exactement. Pas le lanceur d'alerte.
Hey, Lupac s'en vient. Attention, Marceau. Hey, à cet effet-là, est-ce que tu penses que ça percole pour elle le fait qu'elle tente de se détacher du duo Fitzgibbon-Legault? Parce que quand le rapport de la vicatrice générale est sorti, elle dit « Ouais, ça, c'était Legault pour Fitzgibbon. Là, Nemaska Lithium, c'est Legault pour Fitzgibbon. Hier, à la Chambre de commerce de Québec, inquiétez-vous pas, c'est fini, l'avance recule. Tramway, troisième lien, on va de l'avant. » Ça percole, tu vois, tu ris, moi aussi je ris. Est-ce que ça percole, tu penses, chez l'électorat?
La première question, là, c'est le filtre avant l'électorat. Est-ce que ça percole chez les journalistes qui posent ces questions-là?
Mm-hmm.
Et moi, c'est ça que je surveille énormément. Si les journalistes continuent de l'achaler là-dessus, continuent de la questionner là-dessus, continuent de mettre la lumière sur les faits, regardez les dates,
ouais.
Les dates où elle était ministre de l'économie, les dates où on a progressé dans ces projets-là, à ce moment-là, ça va finir par percoler auprès des citoyens. Mais si les journalistes se fatiguent, là, l'été s'en vient, ils vont partir en vacances, ils vont être remplacés par des équipes de remplaçants. Donc, ça pourrait aussi passer comme du bon beurre dans le poil, voilà. Puis on se retrouve à l'automne, puis on pense à d'autres choses.
Fait qu'à cet effet-là, c'est arrivé au bon moment, le vérificateur général, parce qu'on s'en va dans l'été, puis whoop, ça va être dans l'oubli.
Ouais.
Contrairement à Satlick, quand c'est arrivé en plein mois d'avril, puis là, ben, t'avais comme pas le choix de prendre une décision avant la fin de la rentrée parlementaire.
Ouais,
fait que proroger la session, ça a bien fonctionné dans le calendrier. C'est ce que tu es en train de me dire.
Ben oui, absolument.
C'est ça, hein?
Mais c'est quand même vraiment inquiétant de voir que le lanceur d'alerte qui a voulu dénoncer les prises de décision malgré les alertes, qui a été congédié pour avoir tenté de parler du dossier. Moi, je trouve ça très inquiétant du point de vue politique, mais je trouve ça aussi rassurant parce que depuis le départ dans la filière batterie, vous le savez, là, moi, ça fait longtemps, j'étais la première, dès le départ, à dire « Attention, les batteries au lithium, c'est même pas là l'avenir. L'avenir est des batteries solides, je sais pas. Mm-hmm. » Je faisais mon petit cours 101 de batteries solides à tout le monde.
Ouais, tu l'as dit souvent sur nos ondes.
Les « solid state battery », parce que l'électrolyte liquide, c'est une ancienne génération de batteries, on s'en va vers autre chose. J'en parlais et je me disais « Voyons, je peux pas croire que moi, à force de faire des recherches, je découvre tout ça et que c'est rempli de fonctionnaires au ministère qui font pas leur
devoir. Non, il y a des bons fonctionnaires.
Alors, il y en a finalement. Ça, c'est rassurant de savoir qu'il y en a qui savaient très bien qu'il y avait plusieurs risques industriels à prendre ces coûteuses décisions. Mais en même temps, là, on a un sacré examen de conscience comme collectivité à faire,
puis,
à prendre.
Jacinthe, on va se le dire, la raison pour laquelle le gouvernement fait des exemples comme ça avec les gens qui parlent, c'est qu'on veut qu'il n'y ait pas de gens qui parlent.
Ouais. Ben oui.
Clairement.
Ben oui.
Si vous parlez, vous allez vous faire sacrer dehors. Votre carrière, c'est terminé.
Ouais.
Fait qu'oubliez votre fonds de pension. Là, ce que vous avez accumulé, on ne vous le volera pas. Mais tes 10 ans qui te restaient là, pour avoir ta pleine pension, c'est fini, c'est terminé. Bye, bonsoir.
Ouais.
C'est cruel de même.
Et
mais
ton nom, tu vas être en disgrâce aussi parce que ce lanceur d'alerte, on connaît son prénom, on connaît son nom de famille. Il y a la honte sur ses épaules, mais je pense pas qu'il se sente honteux. Puis il n'aurait aucune raison de se sentir honteux, mais il reste que son nom est connu partout.
Hier, dans l'agence, on a interviewé Guillaume Bouvrette, le président du syndicat des professionnels du gouvernement. Puis il nous expliquait que l'employé est en congé sans solde.
Ouais.
Puis on l'a ramené de son congé sans solde pour pas l'interroger, pour lui dire « t'es mis dehors ».
C'est incroyable.
Ben, on a fait ça. Pourquoi tu penses? Parce qu'il fallait absolument avoir quelqu'un, un bouc émissaire à qui on dit c'est de sa faute, c'est lui, c'est de la faute à Legault, c'est de la faute à Fitzgibbon, c'est pas de ma faute Fréchette, parce que elle est pas mal en arrière de tout ça. Là.
Ben oui.
Fait qu'un gars qui ça fait 10 ans qu'il travaille au gouvernement, qui a pris un congé sans solde, à ses frais, pour aller voyager, qu'on lui dit hey, reviens ici parce qu'on va te congédier. Ben ça n'a aucun sens.
Non. Puis n'oubliez pas qu'un Québécois dans la population active, là, un Québécois sur quatre travaille pour la fonction publique, travaille pour le gouvernement du Québec. Alors, ses chances de se retrouver un emploi diminuent. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi sa spécialité à lui, mais en plus, il ne pourra pas se replacer dans un autre ministère. Il est barré du gouvernement. Il y a quelque chose de vraiment épeurant comme société quand tu dis que ces gens-là sont pénalisés fortement comme ça.
Jacinthe, on va-tu avoir une carte de UFC en face de la Maison-Blanche? Moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, waouh, quel décor, ça va juste être hallucinant.
C'est beau en crème, les images.
C'est-tu pour le 250e anniversaire de l'indépendance ou c'est pour les 80 ans de Donald Trump, selon toi? Là?
C'est pour tout ça.
Ça a-tu sa place, un combat de UFC à cet endroit-là? Moi, sérieusement, je pense que oui, là, mais il y en a qui sont vraiment fâchés.
Ouais, ben il y en a qui vont toujours être fâchés. C'est Donald Trump là, il ferait une exposition de petits lapins blancs partout à côté de la Maison Blanche, puis il organiserait une fête foraine avec des petits animaux de petites fermes, puis il mettrait ça ouvert à tous gratuitement pour les enfants, puis on trouverait le tour de dire que ça n'a pas sa place non plus là. Donc on vit dans une époque aussi où dès que c'est X ou Y, telle personnalité qui a fait ça, eh bien, ça vient avec son lot d'excuses. Donc, si c'est Christine Fréchette qui fait quelque chose, ça passe comme du beurre dans le poêle. Et si c'est Donald Trump qui fait quelque chose, ben là, c'est complètement regardé de haut, dénigré, et on n'est pas d'accord avec ça. C'est particulier, bien sûr, c'est particulier, mais ça évoque quand même toute la culture que Donald Trump a voulu réintégrer au sein des États-Unis puis dans la culture politique, c'est-à-dire cette culture de reprendre, de redevenir souverain chez soi, de reprendre le contrôle de ses frontières, de le reprendre les contrôles de notre économie, de reprendre les contrôles de nos chaînes de valeur, de nos chaînes de production. Tu sais, c'est l'appel
son
à la...
Son message est très peu compris actuellement. On dirait que sa cote de popularité commence... sa cote de popularité commence à descendre. L'économie va ralentir aux États-Unis, le prix de l'essence qui augmente. Les Américains sont un peu mécontents présentement.
Oui. C'est possible, mais justement, c'est une raison de plus pour qu'il fasse quelque chose de grandiose pour le 250e, justement pour rappeler aux Américains qui ils sont. Ça reste des descendants de patriotes qui se sont battus pour l'indépendance des États-Unis. Nous dépendons encore de la couronne britannique, en quelque sorte, quand même, à certains égards. Certains me diront pas tant que ça, mais quand même, les Américains, eux, se sont défaits complètement de la couronne britannique. Ils se sont battus pour l'indépendance des États-Unis. Donc, ça fait référence aussi à cette force vitale qui les anime, à cette testostérone qui est bien présente dans ce peuple qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour sa liberté, qu'il y a des valeurs de liberté qui vont bien plus loin que beaucoup de pays occidentaux. Là-bas, la parole est libre pour de vrai. Tu peux dire ce que tu penses pour de vrai. Tu ne seras pas censuré, tu ne seras pas réprimé. Il n'y a pas de policier qui va arriver sur le pas de ta porte pour t'arrêter. Et ça, cette fierté-là d'être des hommes de force, de conviction, indépendants, souverains, patriotes, eh bien, Donald Trump va tenter de l'incarner avec ce sport-là qui évoque quand même quelque chose de très masculin, de très reprise de pouvoir, reprise de contrôle sur ses affaires. Et ça, bien, on peut voir la métaphore ou ne pas la voir. On peut la déplorer aussi, mais ça reste que c'est de ses affaires, puis c'est des affaires des Américains, eux jugeront.
Jacinthe, on s'en va en Suisse, puis je vais te dire d'abord et avant tout que moi je suis pour l'immigration, mais l'immigration contrôlée, l'immigration choisie. Je veux que quand on accueille ces gens-là chez nous, qu'on puisse être capable d'accueillir les enfants, que ce soit à la garderie, à l'école, qu'on puisse être capable de les intégrer dans notre société, qu'on puisse être capable de leur donner un bon travail. Il faut que ces gens-là soient formés aussi. Là, je vois que la Suisse veut limiter sa population à 10 millions d'habitants. Je félicite la Suisse d'embarquer dans ce genre de truc-là, parce qu'effectivement, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une capacité d'accueil, puis ils jugent qu'à 10 millions d'habitants... En fait, ils veulent être en bas de 10 millions d'habitants. Ils jugent que 10 millions, c'est le chiffre qui est comme maximum. Ils peuvent pas monter au-delà de ça. Se faire taxer de racisme, je pense que c'est une des pires affaires là, que tu peux te faire dire sur toi. C'est très courageux de leur part. C'est probablement pas des racistes, mais c'est des gens qui sont un peu dans le... Comment dirais-je? Au goût du jour, c'est-à-dire ça leur prend une capacité d'accueil. On veut des immigrants, oui, mais pas n'importe qui. On veut choisir nos immigrants. On veut leur donner des jobs. On veut leur donner une chance de faire partie de notre société. Est-ce qu'un jour, le Québec va devoir embarquer là-dedans? Parce qu'au Québec, c'est bien intéressant. C'est grand, le Québec, mais il y a juste le sud du Québec qui est habité. Là. Le nord du Québec ne l'est pas. Est-ce qu'on devrait embarquer là-dedans?
Est-ce qu'on devrait embarquer là-dedans? On devrait tous se poser cette question et y réfléchir, en discuter, en débattre et ne pas avoir peur d'en débattre sans se faire taxer de ci ou de ça. On devrait vraiment ne plus avoir peur de débattre de ça parce que c'est un enjeu qui touche tout l'Occident.
François Legault s'est fait traiter de raciste.
Ouais.
Paul Saint-Pierre Plamondon s'est fait traiter de raciste, alors que, bien que c'est mes adversaires politiques les deux, je suis entièrement d'accord avec eux. Faut choisir notre immigration, faut avoir un chiffre précis, puis il faut être capable de les accueillir.
Oui. T'as bien raison, il faut se poser la question, il faut en débattre, il faut se poser collectivement la question, puis pas avoir peur de se faire complètement censurer avec nos propos. Parce que, justement, tu l'as dit, le 14, c'est dimanche, là, le 14 juin, là, que sur Initiative populaire... qui a été intitulé « Pas de Suisse à 10 millions
ouais. »,
les Suisses vont voter sur l'immigration massive parce qu'ils voient les ravages ou les conséquences, hein, parce que là, mon mot « ravage » est quand même biaisé par ma vision des choses, mais ils voient les conséquences de l'immigration massive dans les pays limitrophes. Ils voient notamment en France où plusieurs, dans les périodes estivales, là, l'été s'en vient, là, donc dans les périodes estivales, ils voient débarquer un paquet de gens de la France dans leur territoire suisse. Les parcs sont envahis de touristes qui habitent normalement en France et ils voient des conséquences importantes. Ils voient aussi en Espagne. Donc, toute l'Europe est submergée par une immigration massive, incontrôlée, où il n'y a pas de gestion des frontières, où les portes sont ouvertes pour tous. Et ça coûte cher aussi parce qu'il y a des pays comme la France qui a énormément de programmes sociaux, des filets sociaux là, de bien confortables pour quiconque débarque en sol français. Ça fait en sorte que ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux contribuables, en fait. Et puis, les Suisses, ils ont bien raison de se poser cette question-là, puis se dire, on veut-tu aller là? Et pour répondre à ta question, Yannick, nous aussi, on devrait faire comme les Suisses et minimalement se dire, est-ce qu'on veut aller là?
Ouais.
Et quels moyens on se donne pour peut-être pas se rendre là?
Puis je te pose la question comme ça, est-ce qu'on y va au pourcentage? C'est-à-dire, on en accueille peut-être 20 000 par année, 25 000 par année, ou encore on dit, OK, la population du Québec, ça doit être limité à 9,5 millions de personnes.
Bien, moi, je pense qu'on fait erreur quand on parle juste de chiffres.
Ben, c'est parce qu'on a besoin de monde. Moi, quand je vais être un petit vieux au CHSLD, là, ça me prend les petits-enfants de Max là, pour m'aider au CHSLD, mais faire ma toilette, faire mes affaires lorsque je serai rendu là.
Oui, oui. Mais qui nous dit que dans 3 ans, puis dans 5 ans...
Max va avoir des enfants?
Qui nous dit que dans 3 ans ou dans 5 ans, on a besoin de 30 000 ou 50 000 ou 40 000? On le sait pas.
Faut se fixer un barème.
Non, faut pas se fixer un barème. Non. Faut y aller avec nos besoins actuels. C'est-à-dire que si en ce moment, on manque d'infirmières, faisons venir des infirmières. Si on manque d'entrepreneurs, des gens qui se sont lancés en affaires ailleurs, qui ont démontré qu'ils ont le sens des affaires puis qui ont développé une spécialité dans laquelle ici, on a de moins en moins de plombiers ici puis on a de moins en moins de soudeurs. Bien, si t'as une entreprise de plombiers, de plomberie ou une entreprise de soudure, tu peux venir t'installer ici. Il faut y aller avec du qualitatif aussi, pas seulement du quantitatif, parce que 10 000 étudiants étrangers qui viennent sur notre territoire, ça n'a pas la même valeur que 10 000 infirmières, psychologues, soudeurs et plombiers. Là, je viens de te nommer 4 métiers qui sont en pénurie ici au Québec.
Besoin, ouais.
Donc, il faut y aller avec un ciblage. Il faut arrêter de s'embarquer dans des chiffres annuels puis dire, pour les 5 prochaines années, ça va être 20 000 par année. Puis oublions pas aussi que dans cette immigration-là, il y a toujours le regroupement familial qui, lui, on fait venir grand-maman, on fait venir la sœur, le beau-frère. C'est pas nécessairement des gens qui sont actifs sur le marché du travail ou qui travaillent dans un domaine dont on a besoin, mais ces gens-là, on va continuer aussi de les accueillir. Ils font partie de nos chiffres d'immigration. Donc, à chaque famille qu'on fait venir, on ouvre la porte à des demandes de regroupements familiaux. Et ces regroupements familiaux-là, ils sont pas toujours en adéquation avec nos besoins.
Jacinthe Varel, on te suit sur les réseaux sociaux. Tu fais des belles capsules ces temps-ci. C'est le fun. Il y a beaucoup de travail. C'est franchement intéressant tout ce que tu fais. Puis on se reparle vendredi prochain. T'es-tu là vendredi prochain?
Absolument.
Vendredi.
Bye-bye.
Max, ce sur la route.
Tout est beau. Puis l'électricité qui est revenue du côté de Lévis, là, sur les deux bords de la 20, il y avait comme une grosse panne. 9000 foyers touchés. Ben là, c'est revenu dans les dernières minutes, nous dit-on.
Merci beaucoup.
La circulation, présentée par Multiconfort,